On parle, Claude, d'un pêcheur
qui, le long des côtes grecques, fait du cabotage. Pas la peine d'aller loin quand la pêche vient à vous. L'idéal, dit-il, c'est une petite barque d'une vingtaine de passagers qui chavire au bout du voyage. Alors le pêcheur attrape ses noyés dont la peau est encore luisante d'espérance. Il ressemble à de petites bouées qui flottent. Je fais bien attention à ne pas les abîmer en remontant. Sur son ardoise, à la criée au port, le pêcheur écrit, noir de lignes, sa clientèle apprécie. Car ce pêcheur, qui nous attend dans le 1, pêche et vend des migrants noyés. Le yéménite plus fin que la bonite, l'érythréen qui semble plein d'arêtes, le bébé noyé avant de naître, dont la viande sous la dent serait aussi tendre que le zébu, et puis des femmes et des enfants qui se sont battus longtemps, que le pêcheur réserve à un ministre, car l'excellence veut manger leur courage. Évidemment, ce pêcheur dans le 1 n'existe pas, nous ne sommes pas cannibales. Mais si vous avez le courage de lire cette nouvelle que signe l'écrivain et fondateur du journal Éric Fottorino, alors le pêcheur vous accompagnera car il est notre miroir. La littérature accomplit le journalisme, Fottorino pousse le réel au bout de sa logique. Son texte s'appelle « La pêche du jour ». Il rappelle le grand théâtre français de Sartre, Camus ou Giraudoux qui, dans notre langue maîtrisée, animait nos crimes et nos consciences. Fottorino dialogue avec le pêcheur de cadavres qui sait ce qu'ils ont vivant enduré. Il conserve chez lui le crucifix qu'une petite fille avait rangé dans un petit sac qu'il a repêché. Il voudrait oublier le prénom Alphonse de ce Malien qui, dans son blouson, avait gardé un ticket de loto. Il enferme le pêcheur, les cris des noyés, dans une pièce et il repousse ses tourments. On vogue sur la mer avec en tête des pensées légères. Soudain, vous apercevez un corps qui flotte, puis deux puissants. À cet instant, je parle de la première fois. Impossible d'accepter que ce sont vos semblables, sinon vous êtes aussi mort qu'eux. Vous mobilisez tout votre être pour repousser ce qu'il y a d'humain dans leur regard. Ce qui agonise, devant vous, n'appartient qu'à peine au règne animal. Ce sont des cancres là. Vous me suivez ? Le Monde est allé au Kurdistan irakien rencontrer des familles de trois dénoyés du naufrage de la Manche du 24 novembre dernier. Un père n'a pas pu empêcher sa fille de devenir la mariée de la mère. C'est de la belle ouvrage journalistique, digne et puissante, comme ce numéro du 1 qui est titré « Migrants, sommes-nous toujours humains ?» Mais il faut Fottorino qui le précède pour que je nous admette cannibale.
On parle aussi d'étudiants, Claude.
Qui, dans le Berry républicain, nous disent que pourtant nos vies sont jolies et nos cœurs généreux, car on apprend que 288 étrangers de 46 pays différents étudient dans le Cher, une chouette Babel au centre de la France. Parmi ces étudiants, le souriant, rayonnant Congolais Bétuel, 22 ans, qui veut être une notaire, et qu'une association a logé chez Janine, 94 piges, qui adore les jeunes et leur transmet son goût du chant et de la poésie. Tiens, Bétuel désormais écrit des poèmes, mais il regarde aussi The Voice avec Janine. Ça l'étonne, Janine. Au final, ça lui plaît. Entre les êtres, tout devrait être aussi beau, mais hélas, dans Libération, de nouvelles femmes racontent un prédateur sexuel froid et mufle qu'on appelait PPDA. Dans Le Parisien, j'apprends que de jeunes brutes suivaient et agressaient à Paris des passants pour leur arracher les montres de luxe Rolex, Cartier, Patek Philippe ou Audemars Piguet qu'ils avaient repérées. Dans Le Monde, encore, j'apprends que des entreprises de luxe, Van Cleef et Arpels ou Bulgarie, sont accusées par une organisation britannique de financer la junte militaire birmane et la guerre civile là-bas, en se fournissant en rubis dans les mines que l'armée ou des groupes armés contrôlent. Dans Sud-Ouest, je lis qu'une classe de première de Bayonne est allée prendre, je cite, une énorme claque au camp d'Auschwitz, intégrée à un voyage de mémoire après qu'un garçon ait insulté une condisciple juive. Faut-il l'histoire pour savoir vivre ensemble ?
On parle aussi d'étudiants.
Non, les étudiants, c'était avant.
Voilà, de manuscrits.
De manuscrits, Léa. Des manuscrits précieux à Tombouctou, au Mali, que le Figaro raconte. Tombouctou, que nos soldats évacuent. Ces manuscrits, ils sont 10 000. Le plus ancien date du XIVe siècle, raconte l'histoire de la ville et de la région. Sous l'occupation islamiste, certains ont été détruits, d'autres ont été sauvés par de simples citoyens. Nous tremblons pour des feuilles anciennes, cela nous fait humains. Télérama nous dit que le rap conquit enfin ses quartiers de culture et pénètre même la Philharmonie par une exposition. Télérama nous dit que les séries, ça vous plaira Nicolas, longtemps prises de haut, sont enfin considérées comme des trésors du patrimoine. Des jeunes regardent les rois maudits. Bah oui, les feuilletons étaient des séries. L'humanité me dit que Spider-Man a bien changé depuis le temps où Peter Parker était un étudiant précaire. Il est devenu le gardien du capitalisme. Enfin, j'en termine. Dans les DNA, vous lirez l'histoire occultée des Alsaciens que la France persécuta quand elle reconquit en 1914 quelques arpents de la province perdue. Des habitants jugés pro-allemands furent déportés dans des camps à Marseille ou Besançon. En 1918, une jeune femme, Anne-Marie Hills, avait raconté ses souffrances. Il aura fallu plus d'un siècle pour que son livre soit enfin traduit et publié en français. Il percute notre roman national et nous percute, sinon à quoi bon lire ?
Merci Claude pour cette revue de presse.
France Inter.